VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats mardi dans la région anglophone du Nord-Ouest en conflit. 25 Kamba Boys du nom des séparatistes ont été tués sur les trois accrochages de ce jour à Mbot, localité proche de la ville de Nkambé, a indiqué aujourd'hui à l'AFP une source sécurité à Yaoundé confirmant une information d'une source proche des services de sécurité du Nord-Ouest. Au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont portées disparues à la suite d'une série d'attaques perpétrées dans le nord-est du Nigeria par des membres présumés de Boko Haram. Le gouvernement et l'armée nigériane affirment que les djihadistes de Boko Haram sont pratiquement éradiqués, mais Boko Haram contrôle encore une grande partie du territoire sur les pourtours du lac Tchad et mène de nombreuses attaques, notamment contre les cibles militaires, faisant des dizaines de victimes. Le conflit a causé la mort de plus de 27 000 personnes depuis 2009 et près de 2 millions de personnes ont été déplacées de la région du lac Tchad. Toujours au Nigeria, du nouveau dans la lutte contre la corruption, un centre visant à assurer la protection des témoins ainsi que la justice aux victimes de la corruption sera bientôt établi à cet effet. Ce centre œuvre de la société civile sera chargé de recenser les victimes de la corruption. Reportage, Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le centre servira d'intermédiaire entre les Nigériens vivant en zone rurale ou même ceux qui vivent dans la capitale mais qui ne savent pas revendiquer leurs droits et les institutions de lutte contre la corruption au Nigeria. Tous les cas de corruption seront désormais reçus et enregistrés par ce centre pour des enquêtes et se chargera d'assurer la défense des personnes victimes de corruption. Awal Moussa Ibrahim Rafsanjani du Sislac, centre de défense des droits humains, en est l'initiateur.
Si ce centre n'existait pas, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas d'argent pour aller à la justice, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas les moyens d'aller voir EFCC ou ICPC, ou encore ceux qui ne savent tout simplement pas comment le faire, ils continueraient à être des victimes de la corruption ou des abus des droits humains. C'est pourquoi ce centre est pour les gens ordinaires qui ne peuvent pas défendre leurs droits ou qui sont victimes de corruption.
Il existe plusieurs agences gouvernementales de lutte contre la corruption au Nigeria, mais ces institutions ont encore du mal à lutter efficacement ou mettre fin à ces fléaux qui atteignent des proportions inquiétantes dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont souvent accusées d'être sélectives dans certains cas de corruption contre les cadres ou les individus inculpés, comme le pense Kola Wole, un activiste qui combat la corruption.
Tout d'abord, c'est un problème d'institution. Nos institutions sont généralement faibles. Elles sont influencées par des poids lourds et donc si les intérêts dominent, vous ne pouvez pas combattre la corruption. Si vous avez un homme fort, mais qui est entouré d'autres hommes et que vous avez parmi eux des corrompus qui peuvent influencer l'homme fort, c'est le cas par exemple des institutions qui doivent enquêter, arrêter, juger et inculper.
Cette nouvelle structure se veut plus dynamique, mais va surtout défendre les sans-voix. Elle a déjà signé des accords de collaboration avec les autres agences en place. La police est un partenaire privilégié de ce centre. Abayomi Chokunli, commissaire assistant de la police nationale en charge de l'unité de lutte contre la corruption.
Je pense que le problème de la corruption au Nigeria, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper tous, pas seulement le gouvernement. Tout le monde est concerné par ce problème de corruption au Nigeria parce que, selon les informations que nous recevons, il y a de la corruption à tous les niveaux, en bas comme en haut.
At the lowest level as well as at the highest level.
4 années après son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a en effet connu très peu de succès dans sa lutte contre la corruption. Les milliards détournés n'ont pas été récupérés. Plus grave, les enquêtes piétinent aussi. Selon IFCC, la commission de lutte contre les délits financiers, plus de 700 dossiers de corruption se trouvent présentement devant la justice nigériane. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Gabon, l'état de santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad, est au centre de toutes les conversations Et dimanche, le porte-parole de la présidence a dit que M. Bongo était, je cite, « en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques ». Des réactions de citoyens gabonais recueillis à Libreville, la capitale.
Je reste sceptique à ce niveau, je reste sceptique, mais confiant, parce que je ne suis pas pour la mort du président de la République. Je suis bien pour que, effectivement, il puisse se rétablir, puisqu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais en tant que Gabonais, en tant que leader d'opinion, j'ai des interrogations.
Maintenant, Gabonais, nous voulons savoir, c'est un cadre comme nous. On n'a pas dit que c'est un robot ou une super homme, mais on doit quand même savoir l'état de santé, parce que nous sommes dans l'hypothèse. On nous dit, mais nous n'avons pas de preuves. Qu'est-ce qui se passe dans ce brouillage? Qu'est-ce qu'on craint?
Mon point de vue, c'est les spéculations qu'on nous donne. Donc, ces spéculations, je ne me fie pas à ça. Je veux me fier au jour où on me dit, bon, voilà, il y a un porte-parole qui est arrivé. La première fois, il est arrivé, il nous a dit, voilà, ça va. Et après, on a vu un peu la santé de ce Omar Bongo Ondimba. C'était une pipe où on nous a cassé. Après, on a découvert qu'il était mort. Donc, pourquoi on nous le cache? Qu'on nous dise exactement que la santé s'est améliorée ou ça ne s'est pas amélioré. Il y a un gouvernement et il y a la communication, qu'on communique.
Le candidat à la présidentielle malgache André Rajol, en tête de la course selon des résultats partiels du scrutin du 7 novembre, a dénoncé le manque de transparence de la commission électorale qui compile les résultats et qui a déjà été vivement critiqué par deux autres candidats. Selon les derniers résultats partiels publiés par la CENI ce mercredi, André Rajol, chef de l'État de 2009 à 2014, est en tête avec 39,46% des votes, devant Marc Ravalomanana, 36,76%, et Ri Rajol. Ses résultats portent sur 68,71% des bureaux de vote déjà dépouillés. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote aujourd'hui la levée des sanctions contre l'Érythrée après un accord de paix historique avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti qui laisse augurer de changements positifs dans la Corne de l'Afrique. Des diplomates ont indiqué s'attendre à ce que soit adoptée à l'unanimité une résolution britannique appelant à lever l'embargo sur les armes, les interdictions de voyage, les gels d'avoir et autres sanctions visant l'Érythrée. Ce pays de l'Afrique de l'Est est, depuis 2009, sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La première ministre britannique Theresa May va tenter aujourd'hui de convaincre ses ministres de surmonter leur division sur le Brexit pour approuver le projet d'accord conclu la veille avec les négociateurs européens et britanniques. L'aval du gouvernement est nécessaire pour permettre l'organisation d'un sommet exceptionnel avec les dirigeants européens afin de valider l'accord. Celui-ci devra ensuite être ratifié par le Parlement britannique et européen avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019. Ici, aux États-Unis, de 17% des crimes racistes, antisémites ou homophobes, selon des statistiques du FBI et la police fédérale, ces chiffres ont été enregistrés en 2017, la première année de la présidence de Donald Trump. Eric Manera Kizla.
Dans son rapport annuel sur ces crimes dits haineux, la police fédérale américaine a enregistré 7175 attaques basées sur la couleur, l'origine, la religion, la sexualité, le genre ou le handicap. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 2008. Pour la troisième année consécutive, cette hausse concerne toutes les catégories. Les Afro-Américains sont les premières victimes avec plus de 2000 incidents. L'orientation sexuelle est en cause pour 1130 plaintes et 938 attaques ont visé des Juifs, en hausse de 37% selon le FBI. La publication de ces données intervient un peu plus de deux semaines après la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis qui a ôté la vie de 12 fidèles dans une synagogue de Pittsburgh dans le nord-est des États-Unis. Le ministre de la Justice par intérim Matthew Whitaker s'est dit particulièrement troublé par la hausse de l'antisémitisme, précisant que ce rapport est un appel à agir.
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi la nomination de l'ancien général John Abizaid au poste d'ambassadeur en Arabie Saoudite, une position jusque-là vacante dans l'administration Trump. John Abizaed, âgé de 67 ans, est l'ex-patron des forces américaines au Moyen-Orient. Réunion infructueuse du Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza, mardi, l'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a confié aux médias à l'issue de la réunion qui a duré 50 minutes que le Conseil était paralysé et avait échoué à prendre ses responsabilités afin de mettre un terme aux violences. Le Conseil, en l'absence de consensus parmi ses 15 membres, n'a pas fait de déclaration sur la crise à Gaza. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danone, avait dit avant la réunion que son pays n'accepterait pas d'appel aux deux parties à la retenue. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.